Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à un coureur cycliste mythique italien, Fausto Coppi, qui a marqué à jamais l'histoire du Tour de France et du Tour d'Italie. Campionissimo. Premier coureur à réaliser le doublé Tour d'Italie-Tour de France en 1949, exploit réédité en 1952, il remporte notamment 5 Tours d'Italie, 2 Tours de France, 5 Tours de Lombardie, 3 Milan-San Remo, 1 Paris-Roubaix, 1 Flèche Wallonne, 4 championnats d'Italie sur route et 3 championnats du monde, 1 sur route et 2 en poursuite. Il devient le premier coureur à gagner la même année Tour d'Italie et Tour de France. Depuis, 6 coureurs ont remporté le Tour de France et le Tour d'Italie la même année. Jacques Anquetil en 1964, Eddy Merckx en 1970, 1972 et 1974, Bernard Hinault en 1982 et 1985, Stéphane Roche en 1987, Miguel Indurain en 1992 et 1993 et Marco Pantani en 1998. Il détient également le record de l'heure de 1942 à 1956. Sa carrière a été marquée par sa rivalité avec Gino Bartali. Coureur complet, son palmarès compte des victoires majeures dans différents types de compétitions, sur route et sur piste. Il a acquis nombre de victoires au bout de longues échappées solitaires. Angelo Fausto Coppi, dit Fausto Coppi, est né le 15 septembre 1919 à Castellagna, dans le Piémont. Il est le 4e d'une famille de 5 enfants. Ses parents sont d'humbles paysans, et Fausto les aide dans les différents travaux des champs. Il est né dans l'Italie rurale, dans une période où le sport roi en Italie n'est pas le football, mais bien plutôt le cyclisme. En ce temps-là, Ottavio Bottecchia gagne le Tour de France en 1924-1925. C'est un maçon du Frioul, 3 fois prisonnier en 1914-1918. Le Giro est créé en 1919. C'est un immigré saisonnier meurtri par la guerre que l'on retrouve en France vers Clermont-Ferrand et qui court avec les frères Pélissier. Mais on le retrouve inanimé en 1927 sur une route. Il était socialiste et figure sportive de l'antifascisme italien. À 14 ans, Coppi devient commis charcutier à Lovigliguri, à 20 km de chez lui. Pour Coppi, l'année 1949 correspond au premier doublé, Tour d'Italie, Tour de France. Lors de la 17e étape, une des plus dures que connut le Giro durant son histoire, Coppi accomplit l'un de ses plus grands exploits. S'échappant dans le col de la Madeleine, il parcourt seul les 190 derniers kilomètres. Il arrive avec 12 minutes d'avance sur Bartali, deuxième. Après cette démonstration, Coppi gagne le Giro. Bartali finissant deuxième à 23 minutes, et apparaît comme le favori du Tour de France. Ses exploits lors de ce Giro ont été narrés par Dino Buzzati, qui suivait la course en tant que journaliste à la Corriere della Sera et qui sous-titre l'ensemble de ses chroniques « Le duel Coppi-Bartali ». Le duel Coppi-Bartali ou l'Italie coupée en deux. Contrairement à Gino Bartali, vainqueur à 10 ans d'intervalle du Tour de France 1938-1948, le grimpeur divin soutenu par l'Église catholique et qui aura sauvé des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, Coppi est plutôt apolitique, laïque, soutenu par les forces de gauche. Il appellera néanmoins à voter pour la démocratie chrétienne. Contrairement à Bartali qui incarne une Italie rurale, on fait incarner à Fausto Coppi une Italie d'après-guerre, urbaine, le miracle économique italien. En préparant le Tour de France 1951, Fausto Coppi dispute fin juin le tour du Piémont. À l'arrivée, son frère Cersei chute. Pris de maux de tête à son retour à l'hôtel, il est transporté à l'hôpital où il meurt, brisé. Faustocopie déclare alors « Je renonce au Tour de France et je renoncerai probablement au cyclisme. » Le deuxième doublé Giro Tour de France intervient en 1952. Faustocopie refuse de disputer le Tour de France avec Gino Bartali, n'ayant pas confiance en la volonté de collaborer de celui-ci. Le désaccord est tel que l'Union cycliste italienne annonce renoncer à envoyer une équipe italienne au Tour avant qu'un compromis n'intervienne quelques jours plus tard. Trois protagonistes importants des récentes Tours de France et d'Italie sont absents, Louison Bobet et les Suisses Hugo Koblet et Ferdi Kubler. Lors de la dixième étape, le Tour arrive pour la première fois en haut de la montée de l'Alpe d'Huez. Jean Robic attaque au début de l'ascension, suivi par Geminiani, rapidement lâché, et Coppi. Celui-ci part seul, gagne l'étape avec 1 minute 20 secondes d'avance sur Robic et prend le maillot jaune. Le lendemain, il s'échappe seul sur les pentes du Galibier et gagne à Sestrières avec 7 minutes d'avance. Coppi s'impose à nouveau dans les Pyrénées, à Pau, après être passé en tête au col de l'Aubisque et du Tourmalet et au Puy de Dôme. Il remporte ce tour avec plus de 28 minutes d'avance sur Stan Hookert et plus de 34 minutes sur Bernardo Ruiz. Aucun coureur ne s'est depuis imposé avec une telle avance. Comme lors de sa première victoire, Coppi s'adjuge également le Grand Prix de la Montagne. Agacé de la supériorité que Coppi tire en étant le premier à adopter les progrès de la médecine sportive et les perfectionnements du vélo, Gino Bartali s'échine à découvrir ses secrets et établit un plan d'investigation pour connaître ses découvertes. En course, il descend dans les mêmes hôtels que lui et fouille sa chambre une fois que Coppi l'a quitté, au risque d'arriver en retard au départ. Pour le journaliste Jean-Paul Olivier, la fièvre de connaissance de Coppi s'explique par la prise de conscience, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des carences de son organisme, délabré par des années de malnutrition lors de sa captivité en Tunisie. Il fut le premier à utiliser un vélo plus léger pour les tests contre la montre. Il pousse les fabricants à innover et à améliorer leur matériel et participe à la conception de vêtements plus élégants et plus fonctionnels. En matière d'entraînement, il rompt avec l'habitude des sorties longues, de 8 heures de selle à 25 km de moyenne, et leur préfère des séances de 150 à 200 km à un rythme de compétition. Par ces aspects, Coppi annonce le miracle économique italien des années 1960 et la victoire en 1965 de Felice Gimondi sur le Tour de France en dominant Raymond Poulidor. Durant ces années, le football supplante le vélo. L'intérêt pour le cyclisme décroît en Italie. Faustocopi n'a pas caché durant sa carrière faire usage d'amphétamine, appelée la bomba, chaque fois que c'était nécessaire. La lutte antidopage n'existe pas à cette époque. Sa silhouette, 1m77 pour 67 kg, lui a valu le surnom de Héron. Pierre Chani, 1922-1996, une des meilleures plumes du quotidien L'Équipe et qui a couvert 49 tours, le décrit ainsi. La morphologie de Faustocopi s'éloigne on ne peut plus des canons de la plastique. Il présente des jambes démesurément longues, un buste court, une poitrine en forme de tonnelée, des épaules étriquées, des mollets étiques. Ses os paraissent trop lourds, qui saillent sous sa peau, des os fragiles comme du cristal, qui casseront souvent, trop souvent. Cette morphologie le sert merveilleusement. Sous une carrosserie légère et friable, bien que ses masses musculaires au niveau supérieur de la cuisse soient impressionnantes, il dissimule un moteur de fort cylindré et bénéficie d'une répartition de poids idéale. Dans la vie quotidienne, il fait penser à un échassier, mais il approche la perfection du style sur sa bicyclette. Au paroxysme de l'effort, son buste reste bien en ligne, ses jambes tournent avec onctuosité et ses traits figés dans l'indifférence trahissent moins l'effort que l'ennui. Il est marié en 1945 à Bruna, dont il a une fille née en 1947. Mais Faustocopi a fait scandale en Italie en entretenant une relation adultère, puis en épousant Giulia Occhini, surnommée la Dame Blanche, en raison du duffel coat, couleur de neige qu'elle portait. Fausto Coppi rencontre Giulia Occhini en 1948. Leur relation amoureuse commence en 1953 et éclate à la une des journaux lorsque tous deux quittent leur domicile conjugal après le Tour d'Italie 1954 et s'installent à la Villa Carla, à Novi Ligure. En 1955, ils sont tous deux condamnés à des peines de prison avec sursis pour abandon de domicile. Coppi régularise leur union en 1958 au Mexique, mais l'acte n'est pas reconnu en Italie. Ils ont un fils, né en Argentine en 1955, prénommé Faustino, et qui ne portera jamais officiellement le nom de Coppi. Début décembre 1959, Fausto Coppi est appelé par Raphaël Geminiani pour l'accompagner en voyage en Haute Volta, aujourd'hui le Burkina Faso, à l'occasion de la commémoration du premier anniversaire du statut de colonie autonome. Coppi ne devait pas être du voyage, mais la défection de dernière minute de Louison Bobet lui vaut un appel de Geminiani pour lui proposer la place vacante. Coppi est décrit comme heureux à l'idée de revoir l'Afrique, lui qui avait été fait prisonnier en 1943 en Tunisie. Jacques Anquetil, Roger Rivière, Henri Anglade et Roger Assin-Fordorfer sont également présents. Ils participent à un critérium à Ouagadougou et à un safari. Coppi est classé deuxième du critérium, gagné par Anquetil. Malgré les efforts déployés pour expliquer que Coppi a vraisemblablement la même maladie que Geminiani, à savoir la malaria, les médecins italiens, avec un mauvais diagnostic, continuent de traiter Coppi par des injections de cortisone pour autre chose que la malaria. Fausto Coppi meurt le 2 janvier 1960, à 40 ans, à l'hôpital de Tortona. Il est enterré dans l'église de sa ville natale. Les circonstances de cette mort suscitent l'incompréhension du public et une polémique durant les jours et semaines qui suivent. Il meurt jeune, à l'image de Pantani, le vainqueur du Tour de France et du Tour d'Italie la même année en 1998, qui décède en 2004, à l'âge de 34 ans. Et des doutes subsistent aussi notamment quant aux circonstances exactes de la mort de Pantani. La carrière cycliste de Fausto Coppi est donc un roman qui raconte l'histoire politique et sociale de l'Italie moderne.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.